Ceci est une rediffusion.
Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission de santé hebdomadaire sur Savane FM, c'est tous les samedis à partir de 14h. Merci encore pour votre constante fidélité. Bonne année 2017 à toutes et à tous et le thème de cette émission donc va porter sur la santé de la reproduction avec pour focus les grossesses non désirées. Et dans notre studio donc, mesdames et messieurs, chers auditeurs, nous avons Clémentine Geneviève Tanakda, elle est la présidente nationale du mouvement d'action des jeunes ABBF. Nous avons également Adissa Konaté, responsable du centre d'écoute pour jeunes ABBF et Joseph Belele Ido. Il est le secrétaire exécutif national du RAJS Burkina, le réseau africain jeunesse, santé et développement au Burkina Faso. Bienvenue, chers invités. Avec vous, justement, nous allons parler des grossesses non désirées, le rôle et la responsabilité des parents dans l'éducation sexuelle des adolescents et jeunes. Au cours de cette émission, donc, beaucoup d'informations. Chers auditeurs, vous en aurez donc avec nos experts dans ce studio. Mais avant cela, nous allons écouter un magazine que la Radio Savane FM a réalisé sur les grossesses non désirées, la problématique des grossesses non désirées, la responsabilité des parents. Dans peu de temps, donc, on se retrouve pour la suite de ce panel. Bonne écoute à toutes et à tous. La population du Burkina Faso en 2006 s'élevait à un peu plus de 14 millions d'habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat. Mais des projections démographiques réalisées en 2009 par l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSD, montrent que la population du Burkina Faso passera de 14 millions en 2006 à 18 millions en 2015 et 21 millions en 2020. C'est pour dire qu'il y a encore un gros travail à faire en matière de sensibilisation sur l'adoption de méthodes contraceptives, notamment chez les jeunes. Au pays des hommes intègres, les jeunes sont de plus en plus confrontés au risque de grossesse précoce, de grossesse non désirée et aux paternités précoces. Nous parlons de la contraception au sein des jeunes dans ce magazine. Est-ce que les jeunes s'intéressent à la planification familiale et aux méthodes contraceptives? Connaissent-ils même les produits de contraception? Quelle responsabilité des parents? Autant de questions que nous allons décortiquer au cours de ce magazine. Yeah.
Alice est une jeune élève en classe de terminale à Ouagadougou. Après un rapport sexuel non protégé avec son partenaire, Alice, qui a des doutes sur son cycle, est venue au centre d'écoute pour jeunes de l'ABBF pour une pilule de lendemain. Mais quand nous l'avons abordée, elle n'a pas voulu nous dire exactement son problème.
Je suis venue pour une consultation. C'est ma deuxième fois. Parce que ici à l'ABBF, on trouve que les gens sont accueillants. Mais par exemple, on respecte les clients. Si tu viens par rapport à une information, tu gagnes tout ce que tu veux. Si tu es satisfait, quoi.
Tout comme Alice, elles sont nombreuses, les jeunes filles qui ont un certain complexe à parler de sexe. C'est d'ailleurs ce que nous confirme Laurentine Calsondo, agent de santé au centre d'écoute pour jeunes de l'association burkinabé pour le bien-être familial.
Tout de suite, vous venez de rencontrer une fille. Elle n'a pas voulu expliquer clairement son problème. C'est ça les difficultés. Si tu dis clairement, il n'y a pas de problème. Des fois même, je les oriente vers la sage-femme. Si tu ne veux pas causer avec moi, être ouverte envers moi, bon, tu vas rentrer voir la sage-femme.
Pour se procurer même de produits de contraception, les jeunes codifient le message.
Tantôt, je veux des bonbons, je veux des vestes, préservatifs. C'est comme ça seulement. Au tout début, j'ai demandé pourquoi vous dites des bonbons. Que bon, que en utilisant ça, c'est pour avoir du plaisir. Donc pour eux, c'est des bonbons.
Le comportement à risque des jeunes est surtout lié au manque de planification et d'adhésion aux méthodes de contraception. Nous avons promené notre micro dans les rues de Ouagadougou où nous avons rencontré quelques jeunes. Ils nous donnent leur point de vue sur la planification familiale.
Bon, ça permet d'espacer les naissances. Ça permet d'améliorer aussi un peu les conditions de vie.
Ce qui est sur la planification familiale, c'est que moi, c'est une très bonne chose. Que tout un chacun doit adapter. C'est l'écart d'année entre les enfants, voilà. Et le fait de ne pas en avoir trop, parce que la vie de maintenant, là, c'est plus facile.
Bon, on peut dire que la planification familiale, c'est l'espacement volontaire des naissances. En faisant espacer les naissances, on peut bien éduquer les enfants, en les mettant à l'école. Bon. Et puis, ça s'y fait leurs besoins.
Des difficultés et contraintes limitent l'adhésion des jeunes aux méthodes contraceptives. Entre autres, le sujet semble tabou pour les jeunes, le manque de formation et de documentation est criarde, la fréquentation des centres de santé par les jeunes est moindre. Face donc à ces comportements à risque et leurs conséquences, nombreux sont les jeunes filles qui font recours à l'avortement. Une étude menée en 2012 par l'Institut supérieur des sciences de la population, ISSP, indique que 105 000 avortements étaient pratiqués au Burkina Faso. Selon ce même rapport, le taux d'avortement au Burkina Faso est de plus en plus inquiétant.
Ce qu'on fait, d'abord il y a l'interrogatoire qui permet de voir où ça a été fait. Ensuite, on essaie de voir également les méthodes. Parfois, vous voyez, soit c'est du permanganate, parfois c'est par exemple des rayons de vélo ou bien des tiges de bois. Donc, quand, déjà à partir de là, ça permet de voir que c'est provoqué. Et quand c'est provoqué, généralement, quand on pousse l'interrogatoire loin, là, on voit que c'est clandestin. Quoi. La santé des jeunes et des adolescents mérite en tout cas un financement purement spécifique qui pourra englober tous les aspects de VIH, SIDA, de planification familiale, etc. Sinon, actuellement, les fonds qui viennent là, c'est vraiment de façon ciblée. Même quand les gens disent que derrière ça, il y a les préservatifs, donc il y a la planification familiale, mais la planification familiale n'est pas seulement que préservatif.
Ce rapport de l'ISSP a montré par ailleurs que l'ampleur des avortements est en partie liée aux besoins non satisfaits en matière de planification familiale chez les jeunes. Des jeunes filles que nous avons rencontrées montrent leur réticence aux méthodes contraceptives.
Pourquoi on n'a pas encore commencé à avoir des rapports sexuels? Si on commence seulement là, on va utiliser les moyens de contraception.
C'est la même chose. Hein. Si on commence, voilà, on va utiliser les méthodes contraceptives. Non, même pas.
Moi, en tant que jeune fille, je préfère l'abstinence. Parce que c'est à 100% sûr. Les méthodes contraceptives, je n'en donne pas confiance à ça.
En tant qu'une fille, tu ne devrais pas utiliser ces méthodes. Tu es née pour enfanter, non? Donc, selon moi, on ne devrait pas utiliser.
Il y a deux catégories de filles. Des filles qui préfèrent attendre jusqu'au mariage et des filles qui préfèrent le faire avant le mariage.
Utiliser les trucs des médecins, moi, je ne trouve pas ça trop génial.
Pour le moment, on est jeune fille, on est des élèves, on ne pense pas à ce genre de trucs d'abord, mais on sait que on va rentrer dans ça d'ici quelques moments. Mais je pense que la solution pour s'en sortir dans l'adolescence, dans la jeunesse, il faut s'abstenir, c'est ça la meilleure solution, quoi.
Mais connaissent-elles vraiment les produits de contraception?
Il y a le Norplan, les injectables, les pilules, c'est ce que je connais. Bon, moi je ne les utilise pas parce que je me dis qu'il n'est pas encore temps pour moi de les utiliser. Comme je suis un peu trop jeune.
Les préservatifs, j'ai entendu parler de ça à l'école primaire. J'ai vu le stérilet dans un livre d'activité de 4e. Et il y a le Norplan aussi. J'ai entendu ça parler à l'hôpital. Que le Norplan, si on met le Norplan, ça sert à 5 ans pour les femmes.
J'utilise fréquemment le préservatif parce que je trouve que c'est mieux adapté à mon sens. Et ici, à la BBF, les préservatifs coûtent 10 francs. Donc c'est subventionné et je pense que c'est fait spécialement pour nous, les jeunes, qui n'avons pas aussi l'argent pour aller dans les pharmacies pour payer à coût élevé.
Pour résoudre le problème de la santé reproductive des jeunes, il faut accentuer sur l'éducation sexuelle. Allons maintenant voir les autres facteurs qui peuvent causer les grossesses non désirées avec Désiré Tchombiano. Il est consultant, spécialiste des questions de santé de la reproduction et de la santé sexuelle des jeunes et adolescents.
Il faut dire que cette question de grossesse non désirée a pris de l'ampleur ces dernières années à cause de plusieurs facteurs. Premièrement, le grand facteur qui amène les adolescents à s'adonner aux questions de sexe est la précocité liée aux questions d'imitation ou aux questions de découverte sexuelle. Avant, on avait la chance d'avoir des questions d'éducation sexuelle en famille et tout. Aujourd'hui, les questions d'éducation sexuelle, les enfants les apprennent beaucoup plus sur les sites internet, les réseaux sociaux et tout ça. Et donc, ils sont dans une phase d'imitation. Malheureusement, en famille, il n'y a pas ce temps matériel pour que les parents s'asseyent et discutent avec les enfants sur les questions de sexualité parce que la sexualité est considérée un peu tabou. Quand vous prenez une adolescente fille qui est en train de grandir, le souhait est que la maman ou les parents soient capables de s'asseoir et discuter et montrer à la jeune fille qu'elle va commencer à voir ses menstrues, comment se comporter, comment vivre sainement sa sexualité, comment dire non à des moments et comment avoir une sexualité qui lui permet d'éviter les maladies et les grossesses. Malheureusement, par manque de compétences liées chez les parents, on passe tout le temps juste à dire à la fille, fais attention, tu vas tomber enceinte, ne sors pas avec les garçons, sans les dire comment gérer cette sexualité, comment gérer ses émotions face à un garçon. Deuxièmement, il y a les questions de perte de repères sur un certain nombre de valeurs liées aux questions de sexe. Quand vous prenez les adolescents et les jeunes, les questions d'amitié sont juste liées aux questions rapidement d'avoir des rapports sexuels. Quand vous prenez également les questions de virginité et tout, qui étaient des valeurs avant, autrefois, quand une jeune fille est vieille jusqu'au mariage, qui étaient des comportements bien appréciés, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand vous prenez chez les adolescents, un adolescent qui est toujours vierge, elle devient la risée de ses camarades pour dire qu'il n'a pas de compétences, n'a pas d'informations là-dessus. Donc rapidement, chaque adolescent s'adonne aux questions de sexe. Troisièmement, les questions de vivre avec l'autre en termes d'amitié, en termes de copains, copines, en termes d'amour. Avant, on le voyait, on est ensemble tout simplement parce qu'on veut s'accompagner pour aider l'autre à réussir à l'école et tout. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous me permettez le mot, avec les adolescents et jeunes, ce qui les intéresse, c'est de descendre rapidement le caleçon ou le sous-vêtement de l'autre parce qu'on a envie d'avoir des rapports sexuels. On pense que la preuve d'amour, la preuve de relation, c'est se donner sexuellement l'un à l'autre. Donc, ce n'est pas comme avant où c'était les questions de chasteté. Même avoir des rapports sexuels, ça n'arrivait que dans le mariage. Troisième aspect également, c'est que au regard de tout ce qui est comme fil d'information ou d'informations sur les questions de net, des questions culturelles, et il n'y a pas cette capacité chez les adolescents à pouvoir faire un filtre pour pouvoir choisir quels sont les comportements qu'ils peuvent adopter, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas adopter. Quand vous prenez tout ce qui est comportement au niveau des Occidents qui amènent leurs comportements, les artistes qui amènent leur style de vie, la télévision qui donne avec les télénouvelles à leur manière de vivre, tout ça mélangé, on n'est pas capable aujourd'hui de donner aux adolescents quel est le comportement qu'il faut adopter. C'est pour ça que je disais tantôt aux gens, quand vous asseyez avec vos enfants en train de regarder la télé, quand un certain nombre d'actes, d'actions et tout ça passe, au lieu de couper ou de changer de scène, c'est de discuter avec l'enfant pour demander est-ce que ce comportement c'est faisable, est-ce que ce n'est pas faisable, comment vraiment avoir cette communication pour que l'enfant puisse savoir ce qu'il faut concrètement faire. Et donc, si ça ce n'est pas fait, derrière vous, quand vous avez changé la chaîne, l'adolescent va vous dire, ben, c'est une rediffusion parce qu'on passe ça en longueur de journée, il a eu le temps de le regarder. Et enfin, quand vous prenez les projets et programmes qui sont développés, malheureusement, les projets sont mis en œuvre pour des trucs d'une année ou de deux ans ou de trois ans où le partenaire dit qu'il est fatigué parce qu'il a assez mis des ressources. Oubliant que chaque année, c'est une nouvelle génération de jeunes qui monte, qui a besoin d'informations, qui a besoin d'orientation et qui a besoin d'accompagnement sur un certain nombre d'offres de services de santé sexuelle. Et malheureusement, tous les projets et programmes qui sont mis en œuvre, c'est des trucs d'un an. Quand vous prenez les programmes de santé sexuelle du ministère de la Santé, c'est des trucs où on a mis en place des centres jeunes, des sites sympas où des adolescents et jeunes pouvaient avoir des offres de services qui n'est pas fait. Et ce qui fait que la prévalence contraceptive, c'est-à-dire l'offre de services de santé sexuelle et tout ça, n'a pas atteint un niveau. La prévalence en 2010 était à 16%. Et chez les adolescents, vous vous retrouvez entre 8 et 9%. C'est pour dire que les adolescents n'ont même pas l'offre de santé sexuelle nécessaire, n'ont pas l'offre de méthodes contraceptives adaptées. Donc, ils n'ont pas les préservatifs. Même s'ils ont les préservatifs, le coût n'est pas abordable. Les méthodes contraceptives, ils veulent bien les prendre, mais comme c'est dans des centres de santé et avec le programme qui doit les dire forcément d'aller dans des centres de santé, ils ne vont pas aller. Donc, il faut des centres adaptés qui les permettent d'aller dans un endroit qui répond à leurs besoins et aspirations des jeunes. Donc, le souhait est d'avoir des programmes qui durent dans le temps, c'est-à-dire que l'État même s'engage personnellement à accompagner des programmes et non pas juste laisser des bailleurs de fonds qui financent durant une période et puis laisser. Quand ils abandonnent plus tard, la nouvelle génération de jeunes qui montent avec les systèmes de mutation et d'information vont phagocyter ces informations et puis ça va les amener à adopter des comportements qui laissent à désirer. Avant, les questions d'éducation sexuelle, là, on le faisait en famille. Par exemple, ta tante avait le temps de discuter avec l'adolescent pour lui dire quels sont les comportements qu'il faut adopter. Il y avait un certain nombre de rites, même si c'était à connotation où il y avait l'excision des gens mélangés, mais il y avait encore tout cas un certain nombre d'informations traditionnelles montrant la sexualité aux adolescents et jeunes. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a abandonné tout ça. Donc, il y a une mutation, comme vous l'avez dit, d'un certain nombre de valeurs qui sont là où les adolescents se demandent quel est le comportement qu'il faut vraiment adopter. Est-ce qu'il faut que je me comporte comme le jeune américain? Est-ce que je me comporte comme le jeune français? Est-ce que je me comporte comme le jeune burkinabé ou togolais? On ne sait même plus quels sont les repères fixes en termes de comportement. Parce que nous-mêmes, les adultes qui parlons à ces adolescents, des fois, nous n'avons pas de comportement qui sont des comportements que les adolescents peuvent imiter. Vous prenez des adolescents qui et des grandes personnes qui sortent avec des adolescents et qui les enceintent et qu'on n'arrive pas à réprimer et puis bon, ça reste comme ça, lettre morte. C'est des comportements où les adolescents le voient et ils se disent que si mon papa ou mon oncle peut le faire, c'est que moi aussi je sois capable de le faire. Donc il y a une question d'éducation sexuelle autant chez les grandes personnes, autant chez les enfants qu'il faut développer. Parce que quand vous regardez les vrais auteurs des grossesses non désirées, c'est vrai qu'il y a les adolescents entre eux, mais la majeure partie c'est des adultes qui enceintent toujours des adolescentes parce que la sexualité ici en Afrique, au Burkina Faso particulièrement, il y a des pesanteurs qui jouent. La femme reste toujours inférieure à l'homme dans nos pratiques de tous les jours. Donc, elle n'a pas les compétences, les capacités de dire non à un certain moment ou de négocier le port du préservatif parce que la personne qui est vis-à-vis est relativement plus âgée qu'elle. Donc, c'est toujours des adultes qui enseignent ces adolescentes-là. Donc, il faut toujours développer des campagnes pour donner les compétences à ces adolescentes-là pour qu'elles puissent dire non et aussi dire à des adultes qui le font qu'on puisse les punir et donner, par exemple, les leçons aux autres pour qu'ils arrêtent ces comportements.
Dans un contexte où l'éducation sexuelle à l'école est peu développée, où le taux de scolarisation des jeunes reste faible et où les jeunes n'ont pas souvent accès à des services de santé adaptés à leurs besoins, nous nous posons la question sur le rôle des parents. Addis Akonaté de l'ABBF pense que les parents sont les premiers responsables de la protection de leurs enfants.
Moi, j'ai dit l'éducation des enfants, c'est d'abord la cellule familiale. C'est la première cellule de base de toute éducation, ça commence par là. Mais ils sont combien de parents qui sont là à les élèves, là, c'est les vacances, on ne sait même pas où les mettre. On est pressé que les cours reprennent, on va les envoyer à l'école, on va avoir la paix. C'est ce que combien de parents le disent. Donc, c'est une démission totale. Les parents ne veulent pas prendre les responsabilités. On met des enfants au moins, on dit on ne les moyens pas, on ne peut pas. Et souvent, on regarde. C'est vrai que peut-être ils ont leurs raisons également. Les parents auront leurs raisons quand on les rencontre. Nous vivrons avec les parents, nous savons ce que ça vaut. Mais il faut d'abord que la famille prenne ses responsabilités. La cellule familiale agisse dès le jeune âge de l'enfant. Malheureusement, On attend à un certain âge avancé de l'enfant, du jeune, au moment même où il peut être, il s'est déjà jeté dans ces activités-là. On veut tout stopper.
Les parents sont donc interpellés pour mieux préparer les jeunes à leur vie d'adulte. Voilà donc un magazine sur les grossesses non désirées que vous venez de suivre, chers auditeurs, dans nos studios. Comme je l'avais annoncé, nous avons Madame Konate Adissa, responsable du centre d'écoute pour jeunes, Madame Geneviève Clémentine Tarnagda, elle est la présidente nationale du mouvement d'action des jeunes APBF, et également Monsieur Joseph Belélé Ido, secrétaire exécutif national du RAJS. Avec eux, justement, nous allons parler de la responsabilité des parents dans l'éducation sexuelle des jeunes et adolescents. Puisque Madame Konate Adissa le disait tout à l'heure dans ce magazine, les parents ont démissionné. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau maintenant? Nous allons d'abord poser la question à Monsieur Ido Joseph. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour mieux trouver des solutions, pour mieux ramener les parents, justement, à s'intéresser à l'éducation sexuelle de leurs enfants?
Ok, merci Arnaud. Et bonjour aux auditeurs. Je tiens d'abord à remercier Savane FM de nous avoir associés à ce débat-là, qui pour moi est d'actualité parce que nous sommes dans la période effectivement des fêtes, une période trouble pour les adolescents et jeunes. Et Dieu seul sait combien de grossesses vont sortir justement de ces virées nocturnes d'aujourd'hui, de demain et du 24 passé. Effectivement, quand on parle d'éducation, le premier responsable, c'est le parent. Voilà. C'est vrai que l'école vient après, mais le premier responsable, c'est le parent. Et quand on parle de parent en Afrique, on sait que ce n'est pas le père et la mère, mais il y a tous ses oncles, ses tantes, ses cousines, ses cousins qui sont autour et qui sont en mesure de donner l'information au jeune qui est en train de dévier, ou bien à l'adolescent qui commence à avoir des comportements pas normaux vis-à-vis de la société. Et il faut que chaque parent ait le courage d'aborder la question avec son enfant. C'est vrai que nous sommes, comme l'a dit M. Tchombeno, une profonde mutation qui fait qu'on ne sait plus réellement qui doit parler à l'enfant. Mais il faut que les premiers parents aient le courage de trouver la stratégie pour et parler à leurs enfants. S'ils ne peuvent pas, la famille est grande, on peut aussi demander à une tante ou bien à un oncle de s'adresser à l'enfant. Mais le premier responsable, c'est le parent. Et il faut que chaque famille où il y a une grossesse non désirée chez une adolescente ou bien chez une jeune qui n'est pas encore majeure, il faut que les parents se posent la question: qu'est-ce que j'ai fait pour éviter et que ma fille ne tombe enceinte, ou bien que mon garçon enceinte une fille. Parce que chaque fois on indexe immédiatement la fille comme si c'était elle qui était la fautive. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait pour éviter ça? Parce que c'est nous qui l'avons mis au monde. Elle a grandi avec nous. On l'a vu grandir. On a vu ses comportements. Il y en a qu'on a corrigé. Il y en a qu'on n'a pas corrigé. Et c'est ça qui a abouti à la grossesse. Et la question qu'on doit se poser: qu'est-ce que moi j'ai fait? Au lieu de réprimander la fille, qu'est-ce que moi j'ai fait? Et à partir de ça, peut-être qu'on peut donner l'exemple à d'autres, à d'autres parents. Et si je reviens maintenant à la période des fêtes, il faut que les parents sachent que cette période-là, les filles ne doivent pas sortir sans que vous ne sachiez où elle va. Voilà. C'est vrai qu'il y a une brinque quelque part. Oui, mais
Saint-Sylvestre.
Je demande la permission pour aller à une brinque. Oui, tu peux aller, comme c'est le 31, tu peux aller. Mais où tu vas et avec qui? C'est ça le plus important. Et à quelle heure tu rentres? Ça, c'est très important. Il ne suffit pas de donner la liberté parce que c'est la fête, tout le monde est joyeux.
Oui.
Mais ça peut avoir des conséquences pour toute la vie après. Donc, il y a un contrôle déjà à faire à partir de ce midi-là pour savoir où les enfants vont ce soir-là, avec qui et à quelle heure et ils doivent rentrer. Ça, c'est pour situer justement le problème dans l'actualité.
Merci beaucoup, voilà. M. Ido, en tout cas, et beaucoup d'éclaircissements. Madame Konate, est-ce qu'il faut revenir dans la tradition où on disait aux jeunes filles, par exemple, que de ne pas s'approcher aux garçons parce qu'il y a une plaie au niveau du sexe? Est-ce que vous pensez que ça peut être d'autres solutions pour mieux éduquer les filles sexuellement?
Ok, merci bien. Et c'est vrai que
les choses changent. Et chez les, moi aussi, on dit ti couleur sans goulum, bien pour goulum tout. C'est pour dire que s'il y a les changements, il faut qu'on s'adapte à ces changements-là. C'est vrai qu'on ne peut plus dire que, comme dans le temps passé,
oui.
ce qui se faisait dans le temps passé, il faut obligatoirement le faire actuellement. Mm-hmm. On n'a pas dit ça. Mais comme les choses changent, il faut que nous également nous changeons avec notre temps. Et ce temps, mes prédécesseurs venaient de le dire, mm-hmm. même dans le magazine, on l'a suivi. Et dans le temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se faisaient en famille.
Mm-hmm.
Il y a les oncles qui étaient là, il y a les tantes qui étaient là. C'est la famille élargie. Mais actuellement, peut-être même que l'enfant, souvent même renie même sa tante,
mm-hmm.
renie même son oncle. Et comme on le dit, maintenant on dit à tout le monde, c'est tanti, c'est tanti. C'est tanti, tanti. On ne sait même plus, tanti là, ça veut dire quoi? Ma tante là, c'est quoi?
Mm-hmm.
Et si bien que maintenant, comme il n'y a plus ce cadre, nous, dans le temps, moi, je suis peut-être d'un certain âge, dans le temps,
oui.
on a effectivement les tantes qui étaient là, le soir, comme ça, on réunit mm-hmm. les jeunes par génération. Les jeunes filles par génération. Et les garçons,
oui.
c'était les oncles qui les réunissaient. Et le débat est ouvert
mm-hmm.
dans le domaine de la sexualité. Et on vous dit telle ou telle chose, on vous dit de ne pas faire... Parce que.
La tradition l'interdit.
La tradition voilà. l'interdit.
Mm-hmm.
Et on vous même dit, il y aura un moment où, par exemple, si le papa décède, vous avez des rites à accomplir. Et gare à vous,
mm-hmm.
si vous avez déjà fait l'acte sexuel. Donc, il y avait tous ces éléments-là qui étaient là. Mais maintenant qu'il n'y a plus toutes ces choses, et que peut-être la famille est réduite mm-hmm. à papa, maman, et peut-être les frères et les sœurs qui sont là, il faut que ces premiers géniteurs des enfants-là puissent prendre leurs responsabilités. Parce qu'il y a un vide qui n'a pas été comblé.
Oui.
On le disait dans le magazine, il y avait des rites qui étaient là. Mm-hmm. C'est vrai, les moments d'excision, de circoncision, c'était des moments très forts pour peut-être parler de sexualité aux jeunes. Parce que c'est une période où le jeune quitte la période de l'enfance pour entrer dans la période adulte.
Mm-hmm.
Donc, c'est des moments où il fallait lui inculquer beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, il n'y a plus ces rites-là.
Mm-hmm.
L'excision est complètement bannie. Mais il y avait des choses intéressantes qui étaient là, qu'il fallait peut-être récupérer sous une autre forme. Chose qui n'a pas été faite.
Mm-hmm.
Donc, ça fait qu'il y a un vide. Un vide qui fait que les jeunes sont laissés à eux-mêmes.
Oui.
Et malheureusement, comme on le dit, les parents, peut-être qui n'ont peut-être pas, comme je l'ai dit dans le magazine, et c'est facile de dire non, les parents rejettent tout le temps la faute pour oui. dire que non, nous ne sommes pas à la hauteur. Ou bien qu'ils disent les enfants connaissent mieux que nous.
Oui.
J'ai dit non. On dit que la plus belle femme donne ce qu'elle a.
Mm-hmm.
Les parents, ce que vous avez, vous donnez aux enfants. Il n'y a pas ce parent-là qui puisse dire qu'il n'a pas une bonne éducation à donner à son enfant, même dans le domaine de la sexualité.
Mm-hmm.
Parce qu'ils vivent leur sexualité, ils ont été jeunes, ils ont traversé cela. On a au moins quelque chose à dire à nos enfants.
Ça, c'est vrai.
Donc, mm-hmm. il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Et ce que je veux dire,
mm-hmm.
on n'a pas dit qu'on va réussir à tous les niveaux,
mm-hmm.
avec tous les enfants. Il y a des parents qui vont donner toute l'éducation qu'il faut.
Oui.
Qui vont lever cet aspect tabou pour aborder les choses vraiment claires avec les enfants. Mais malgré tout, il y aura des enfants qui ne vont pas peut-être épouser cette éducation mm-hmm. et qui vont peut-être avoir des comportements, comme nous disons, des comportements non responsables. Mais au moins, le parent aura fait sa part de responsabilité, aurait joué son rôle.
Mm-hmm.
Et c'est ça qu'on demande aux parents.
On va en reparler, Madame Konaté, puisque Madame Clémentine Geneviève est la présidente nationale du mouvement d'action des jeunes ABBF. Déjà, comment les jeunes se comportent quand vous êtes en assemblée? Est-ce que cette question de sexualité-là est plus ou moins abordée et de façon sans gêne?
Ok, merci pour la question. Mm-hmm. Il faut dire qu'au niveau des jeunes aussi, la sexualité est considérée comme un sujet tabou, mm-hmm. parce que c'est inculqué dès le bas âge, dès la famille. Parce que comme les parents considèrent la sexualité comme étant un sujet tabou, c'est la même chose au niveau des jeunes. Vous l'avez remarqué au niveau du magazine où les jeunes disaient que bon, pour le moment, mm-hmm. eux, ils n'ont pas affaire aux méthodes de contraception. Quand ils voudront se marier, ils vont avoir affaire à ça. Donc, c'est un sujet qui est considéré tabou parce que dès la racine, mm-hmm. et le sujet est considéré comme tabou. Ça fait qu'il y a une mauvaise information au niveau des jeunes qui font que les jeunes même refusent d'aller vers les méthodes de contraception. Il y a les rumeurs qui tourne autour des méthodes de contraception. Mmh. Vous avez écouté au niveau du magazine une jeune qui disait « Bon, les filles, on est là pour accoucher, pourquoi je vais utiliser une méthode de contraception ?» Oui. Vous voyez, tout ça, ce sont des rumeurs qui circulent autour et des méthodes de contraception.
Ça, c'est une entrave au droit, à la loi et sur le droit à la santé sexuelle et reproductive.
Oui, 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 sur le droit, parce oui. qu'on dit que mmh. tout individu a le droit de choisir mmh. la méthode de contraception qu'elle veut mmh. au moment où il veut. Mmh. Voilà, donc ça fait partie d'un droit sexuel.
Okay.
Et concernant les parents... Mmh. Je vais demander à ce que les parents puissent arriver à briser cette glace-là et entretenir une communication franche avec les enfants sur la santé sexuelle mmh. dès le bas âge. Parce qu'il faut que tout un parent puisse arriver à devenir le meilleur ami de son enfant. Parce que ce qu'on ne peut pas dire aux parents, c'est ce qu'on part dire aux amis au dehors. Alors qu'on sait qu'entre nous jeunes, l'information passe, mais l'information juste mmh. ne passe pas. Voilà, donc c'est que chaque parent arrive à insérer ce climat bon vivre-là avec ses enfants okay. dans la maison.
Merci beaucoup, Madame Tarnagda. Monsieur Ido, est-ce qu'il y a des périodes, des moments propices, bien choisis pour discuter de sexe avec ses enfants?
On peut dire qu'il y en a, mm-hmm. comme aussi on peut provoquer le moment. Mm-hmm. Voilà, c'est-à-dire, tantôt, M. Tchombiano l'a dit, il y a des émissions qui passent à la télé qui peuvent être des opportunités pour parler aux enfants. Ça peut aussi être des émissions radio comme celles que nous sommes en train de faire. Quand ces opportunités-là ne se présentent pas, il faut provoquer l'opportunité. Mm-hmm. Il faut trouver le moyen. On peut même aller chercher un film qui parle de ça, venir demander aux enfants de suivre. S'il n'y a pas de film qui passe volontairement, que la TNB ou bien une autre chaîne ne présente pas, on peut soit même aller chercher le film qui parle de cette sexualité, les venir projeter et profiter, appeler les enfants, on va discuter de ça. Ça peut être un article dans un journal qu'on va demander aux enfants à lire et on profite après, bon, lisez après, on va échanger sur ce qui est là-dessus.
Est-ce qu'il n'y a pas eu une inquiétude à ce niveau? Parce qu'un auditeur m'a posé la question l'autre jour pour voir, est-ce que si on parle de sexe avec les enfants, ça ne va pas les tenter, ça ne va pas les amener à vouloir essayer pour voir?
Oui, mais c'est là toute la différence qu'il faut faire entre parler de sexe et parler de sexualité. Mm-hmm. Voilà. Il y a des gens aussi, il y a ce groupe de personnes-là qui pensent que l'éducation sexuelle, c'est l'éducation à la pratique sexuelle. Mm-hmm. C'est différent. Parler de sexualité, on parle plutôt de compétences de vie courante axées maintenant sur la sexualité. Comment avoir une vie sexuelle saine qui va vous aider justement à réussir votre vie. Mm-hmm. Mais parler de sexe, les gens ont tendance à croire que c'est bon, on parle de rapports sexuels, comment on fait les rapports sexuels, quelles sont les positions qu'il faut adopter, à quel moment il faut faire ça, s'il faut s'embrasser, s'il faut se caresser. Non, c'est pas ça. L'éducation sexuelle, c'est apprendre aux enfants comment gérer sa sexualité de façon saine en relation avec son devenir, en relation avec son développement et dans le respect justement de la morale.
Ok.
Voilà.
Merci beaucoup, M. Ido. Madame Konaté, vous avez entendu dans le magazine où les enfants parlaient de bonbons, de vestes pour s'acheter des préservatifs. Ça veut dire que déjà que les enfants maîtrisent et connaissent déjà, même avant même que les parents n'aient discuté avec eux. Déjà, comment vous voyez cela? Des codes, des messages codés pour s'approprier des méthodes contraceptives?
Oui, on l'a dit dans le magazine. Mm-hmm. Et nos jeunes sont très précoces. Mm-hmm. Et l'acte sexuel actuellement est fait de façon très tôt. Il y a 2-3 ans passés, on disait que la plus jeune mère au Burkina avait 9 ans. Donc, si elle a 9 ans, ça veut dire tout ce qu'elle a. Elle avait déjà son enfant à l'âge de 9 ans.
Wow.
Donc, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Donc, les jeunes font l'acte sexuel très tôt. Dans le magazine, il y a des jeunes qui disaient, non, on ne veut pas de méthode parce qu'on n'a pas encore commencé. Mais on sait comment ça se passe. Et tout dernièrement, il y a le rapport national sur l'état de la population. Cette année, ils ont mis le focus sur les grossesses non désirées. Mm-hmm. Ils ont fait même une enquête. Le ministère de l'économie, à travers la direction des politiques et populations, a fait une étude dans les différentes régions par rapport aux grossesses non désirées. Ils ont recensé plus de 5200 cas de grossesse en milieu scolaire. Et la majorité de ces cas-là se retrouvent au premier cycle, c'est-à-dire de la sixième en troisième. Voyez. Donc, de sixième en troisième, voyez un peu l'âge. C'est peut-être entre 12 et tout au plus 16 ans. Donc, ils sont très, très, très précoces. Donc, comme ils sont précoces, ils ont commencé l'acte sexuel très précocement, mais ils développent déjà leur vocabulaire. Comme il le dit, on ne veut pas manger la banane avec sa peau, on ne peut pas manger le bonbon avec son emballage. Donc, ils viennent vers nous, on veut les vestes, on veut nos bonbons. Comme ils le disent, tout dernièrement, au mois de décembre, on a eu, c'est au mois de novembre, la deuxième édition de la Semaine nationale de la planification familiale. Il y a eu d'activités de sensibilisation. Et dans un établissement où on est parti pour faire justement cette sensibilisation, et on a demandé les différentes méthodes. Il y a une jeune fille qui a cité l'abstinence. Et deux jeunes garçons se sont levés sur elle. En lui disant, mais tu es bête. Comment tu peux citer ça comme si on peut le pratiquer? Ce n'est pas possible. Mais voilà des phénomènes qui... Et ils nous ont jeté, et je leur ai posé la question, pourquoi vous pensez que vous ne pouvez pas s'abstenir? Et y en a qui ont dit, non, mais madame, vous savez que faire les rapports sexuels, c'est tellement doux. L'on dit comme ça, c'est tellement doux. Donc, comme ils le disent, que c'est bon. Il le dit, c'est bon. Donc, nous, on veut le bonbon. On veut le bonbon pour au moins nous préserver. Oui. Mais comme c'est ça également, quand on travaille avec les jeunes, il faut connaître ce langage-là. Que quand ils viennent pour dire que je veux le bonbon, qu'on sache qu'ils veulent dire le préservatif. Il y en a qui croient que peut-être si je dis que je veux déjà le préservatif, ils seront jugés. Non. On ne va pas vous juger, on dit non. Celui-là même qui arrive à avoir ce courage pour dire « Je suis venu pour chercher le préservatif » ou quel que soit le nom qu'il va lui donner, au moins qu'il puisse avoir son préservatif, que celui-là qui va peut-être aller sans préservatif et qui va se retrouver avec les IST, les maladies, qui va se retrouver à soit enceinte une fille ou à être même enceinte si c'est la fille elle-même.
C'est vrai que c'est dur même pour les adultes de venir directement dire que je veux des préservatifs. Madame Konaté, est-ce qu'il vous arrive souvent de voir des parents accompagner leurs enfants pour des prestations ou pour s'informer eux-mêmes?
Oui, de plus en plus, comme je le disais, nous faisons également des actions à l'endroit des parents. Donc nous réunissons des parents parce que beaucoup de parents disent non, nous voulons parler de sexualité à nos enfants, mais nous ne savons pas comment commencer. Parce que tout simplement, comme vous le disiez tantôt, les gens croient que parler de sexualité, c'est de montrer à l'enfant comment il faut faire l'acte sexuel. La sexualité, c'est une question de qualité de vie. C'est montrer à l'enfant comment il doit vivre sa vie, comment être responsable, comment préserver sa vie pour fonder faire un avenir, arriver à ses rêves. C'est un peu ça. Donc, revenir, vous avez dit que...
Des parents qui accompagnent
les enfants. Donc, quand on sensibilise les parents à vraiment avoir cette communication, après, les parents nous accompagnent les enfants. Ils viennent avec les enfants. Je viens avec ma fille ou bien mon garçon pour que vous puissiez parler avec lui parce qu'il m'est très difficile de pouvoir aborder cette question avec l'enfant. D'accord. Donc, on voit des parents qui accompagnent les enfants.
D'accord. Madame Tarnagda, comment la question du rôle des parents est abordée dans votre milieu? Je veux parler de votre mouvement. Est-ce que les jeunes en parlent souvent? Est-ce qu'il y a des parents aussi qui viennent souvent vous voir, voir comment vous travaillez, voir comment vous organisez justement dans cette question de santé de la reproduction?
Oui, concernant cette santé sexuelle et de la reproduction, mm-hmm. il y a des parents qui viennent avec les jeunes parce que comme dans le mouvement, mm-hmm. comme ce qu'a dit Monsieur Ido, mm-hmm. d'aucuns pensent que parler de la santé sexuelle, c'est de montrer aux enfants comment pratiquer l'acte sexuel, tout et tout. Donc ça fait que certains parents s'approchent pour pouvoir comprendre quand vous parlez du mouvement d'action des jeunes, mm-hmm. ou bien vous menez les activités envers les jeunes. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes? Est-ce que ça ne contribue pas à envoyer les jeunes à la déperdition? Est-ce que ça ne pousse pas les jeunes à aller vers les rapports sexuels? Voilà, donc, et les jeunes aussi en parlent parce qu'au centre d'écoute pour jeunes d'ABBF, nous avons souvent des rencontres parents-enfants. Mm-hmm. C'est un créneau qui permet aux jeunes d'échanger en présence des parents. Les parents aussi disent leur point de vue et les jeunes aussi disent leur point de vue. Donc, c'est un dialogue intergénérationnel qu'on essaie mm-hmm. De placer au niveau des parents et des jeunes, au niveau du centre d'écoute de jeunes de l'ABBF.
D'accord. Et est-ce que vous faites souvent des plaidoyers auprès des parents pour instaurer cette communication et parents-enfants sur la santé sexuelle?
Oui, on fait des plaidoyers mm-hmm. aussi bien au niveau des parents qu'au niveau des décideurs politiques. Mm-hmm. Récemment, nous avons fait un plaidoyer à travers le ministère de la Santé mm-hmm. pour qu'on puisse rendre gratuit les méthodes de contraception au niveau des jeunes et aussi insérer l'éducation sexuelle complète au niveau et des curricula scolaires. Mmh. Donc il y a un plaidoyer aussi qui est fait pour que les parents puissent accompagner les enfants sur cette question de santé sexuelle et de la reproduction. Parce que comme on le dit, c'est bien vrai qu'on pense que c'est les enseignants à l'école qui peuvent éduquer les enfants ou c'est la rue, mais les premiers éducateurs de ces enfants-là, c'est les parents. Parce que les enfants seront à leur image. Ce qu'ils diront, parce qu'ils les voient comme leur modèle, mm-hmm. ce que les parents diront aux enfants, c'est ce qu'ils mettront en œuvre. Donc la société, les centres d'écoute et l'école viendra en appui à ces enfants-là.
D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Ido, nous nous acheminons vers la fin de notre émission, mais avant qu'on ne se quitte, donc moins de grossesse en tout cas non désirée pour 2017, c'est ce que vous oui. souhaitez. Mais avant cela, nous voyons que nous sommes dans un monde de mutation. Les parents n'ont pas le temps, le boulot, maman est au boulot, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Souvent, même avant, on mangeait dans un même plat. Maintenant, chacun vient, il se sert, il rentre dans sa chambre, il est sur Facebook et puis il mange. Comment véritablement on peut mieux impliquer les parents? Quel est le message que vous portez donc à l'occasion de cette nouvelle année 2017 aux parents?
Ok, l'évidence c'est qu'il faut que les parents parlent aux enfants, mm-hmm. ça c'est clair, maintenant la stratégie c'est autre chose. Mm-hmm. Et l'autre problème...
Ça veut dire que les parents même ont peur de parler de...
Non seulement ils ont peur, mais ils n'ont pas les compétences.
Oui, oui, oui.
Il y en a qui n'en savent pas autant sur mm-hmm. la sexualité, ils ne savent même pas quoi dire. Mm-hmm. Il y a des enfants qui sont plus informés que leurs parents mm-hmm. Sur les questions de sexualité, de planification familiale, de méthodes contraceptives et tout. Mm-hmm. Donc il faut que les parents aussi aillent vers l'information. Il faut qu'ils se cultivent, il faut qu'ils se documentent mm-hmm. pour pouvoir aborder la question avec les enfants. Ou à défaut, il y a les centres qui existent. Il y a les centres d'écoute pour les jeunes tels que celui de l'ABBF. Il y a beaucoup d'autres centres. Nous en avons, mais il n'y en a pas à Ouagadougou. Mm-hmm. Il y en a en province. Et dans d'autres provinces, je vais dire. Mais il faut que les parents aillent chercher ces informations-là et développe les stratégies pour parler aux enfants. Maintenant, en termes de stratégie, mm-hmm. c'est en fonction du contexte familial qu'on peut trouver le temps, le lieu et la méthode pour parler à l'enfant. Vous avez dit tantôt, papa et maman vont au service, ils reviennent le soir, mais on revient le soir, ce qui est sûr, on ne va pas ressortir, même mm-hmm. si on ressort, on va pas dormir ailleurs. Ça sera toujours dans la maison. Ou si ce n'est pas possible... Et comme vous le dites, il y en a qui mangent à table avec leurs enfants et qui profitent parler mm-hmm. aux enfants. C'est tous ces moments-là. Il y en a qui regardent la télé avec leurs enfants. Il y en a qui vont regarder des matchs de football avec leurs enfants. Il y en a qui vont au ciné avec leurs enfants. Il y a toujours un moment où on est avec l'enfant. C'est de pouvoir franchir cette barrière, cette glace, comme l'a dit Tarnagda. Mm-hmm. C'est de pouvoir briser cette glace-là. Sinon, il n'y a pas
dans chaque famille, il y a toujours ce moment-là. Moi, je connais quelqu'un et qui, chaque semaine, il a plus de 7 enfants dans sa cour, mais chaque semaine, il trouve une heure pour parler à chaque enfant. Il fait un conseil d'une heure avec chaque enfant dans la semaine. Il a mis ça dans son programme, c'est ça, et les enfants sont au courant. Quel que soit le thème, chaque enfant doit savoir que j'ai une heure de discussion avec le vieux dans la semaine. C'est de pouvoir planifier ça. Sinon, on ne peut pas prendre l'agenda de... On ne peut pas standardiser les agendas pour toutes les familles du Burkina. Et il faut quand même que chaque parent puisse trouver la stratégie. Mais il faut qu'ils aillent vers l'information. Il faut qu'ils se cultivent, il faut qu'ils lisent. Il y a des centres qui sont là pour ça. Oui. Il y a même sur Internet, on peut trouver toute la documentation nécessaire. Même si l'enfant va vous corriger, peut-être, au moins on a abordé la question. Et c'est déjà un pas de franchi.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ido. Madame Tarnagda, avant qu'on retrouve Madame Konatem, quels sont vos voeux pour les jeunes pour cette nouvelle année 2017 qui s'annonce?
Ok, les vœux pour les jeunes pour cette année 2017 qui s'annonce, c'est surtout qu'on ait une année sans grossesse non désirée en milieu jeune.
Ok.
Voilà, une année sans grossesse non désirée en milieu jeune et sans infection aussi, sans IST en milieu jeune. Et je vais inviter pour cela les jeunes à pouvoir aller vers l'information en fréquentant les centres d'écoute pour jeunes. Nous avons les centres d'écoute pour jeunes au niveau de la BBF et qui se trouve à Passepanga. Donc, inviter ces jeunes-là à fréquenter les centres d'écoute pour jeunes pour pouvoir avoir la bonne information afin qu'on puisse réellement avoir une année 2017 sans grossesse non désirée en milieu jeune.
Ok. Merci beaucoup, Madame Tarnagda. Madame Koumate, pour finir, Madame Konaté, quel est le message fort afin qu'on puisse lutter contre les grossesses non désirées, même si ça s'avère plutôt complexe?
C'est vraiment notre cri de cœur, c'est que vraiment on arrive à bannir ces grossesses non désirées là, en milieu surtout des adolescents, les très jeunes. C'est vraiment chaud. Et un appel que je vais lancer, c'est vrai, nous sommes, aujourd'hui c'est le 31, c'est la fête. Et je vais vraiment interpeller les parents d'avoir un regard sur chacun, sur ses enfants. Beaucoup sont ces adolescents-là qui vont dormir dehors ce soir. Et il y a des parents qui, peut-être, il y a certains parents qui ne savent pas que les enfants ne sont pas là. J'ai surpris une fois une conversation de jeune où la jeune fille dit que non, que le soir elle est là avec les parents et elle dit aux parents bonne nuit aux parents, elle va même faire coucou à papa, à maman et elle rentre comme si elle va dormir. Et que comme c'est comme ça, ils sont rassurés, ils se disent qu'elle elle dort, alors qu'elle ne dort pas, elle veille. Et dès qu'ils sont rentrés, elle est sortie. Et elle sort. Malheureusement, elle laisse même la porte ouverte. Elle met même les sécurités. Elle crée les sécurités au niveau de la famille parce que la porte est restée maintenant chaude. Et je l'ai surpris en train de causer comme ça. Donc, c'est vraiment dire aux enfants, tu ne fais pas le tort seulement aux parents, mais tu fais également du tort à soi-même. Et comme on le dit, c'est la période de fête et période où les gens peuvent abuser de l'alcool. Donc, on interpelle vraiment surtout les adolescents et les jeunes à faire attention à cette consommation d'alcool. Il y en a qui vont même aller jusqu'au liqueur, étant jeunes. Quand on prend l'alcool, on ne sait plus ce qu'on fait. Et ils s'exposent. On peut facilement faire un rapport non protégé. On peut facilement faire un accident de la circulation. Donc, je lance cet appel-là aux adolescents et même aux adultes, parce que afin que la consommation d'alcool soit vraiment modérée pour nous éviter beaucoup de dégâts. Donc, on souhaite vraiment bonne fête à tout le monde, que la fête soit belle, mais que dans le respect mutuel et en évitant trop d'abus. Les abus, c'est à tous les niveaux. Que ce soit la nourriture, que ce soit l'alcool, qu'on évite vraiment ces abus-là. Il faut pas manger comme si on ne va plus manger demain.
Merci. Merci beaucoup, Madame Konaté. Je rappelle que nos invités étaient Monsieur Joseph Belélé Ido. Il est le secrétaire exécutif national du RAJS, c'est le réseau africain jeunesse, santé et développement au Burkina Faso. Également, Madame Konaté Adissa, responsable du centre d'écoute pour jeunes de l'association burkinabé pour le bien-être familial. Également, dans nos studios, nous avons discuté de grossesse non désirée avec Madame Tarnagda Geneviève Clémentine. Elle est la présidente nationale du mouvement d'action des jeunes ABBF. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Bonne année 2017 à toutes et à tous. Et surtout, moins de grossesse non désirée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ceci était une rediffusion.